L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Oz Actuali, un numéro que nous enregistrons vendredi
3 mars,
hein, quelques jours avant notre diffusion du mardi. Alors peut-être que certaines informations que nous évoquerons tout à l'heure
vont s'emballer dans le week-end.
Voilà. Alors évidemment, on présente toute l'équipe. L'équipe type est présente. Bonjour Caroline, bonjour Adeline. Pour une dernière avec nous avant peut-être que tu reviennes ou pas. On verra.
Une dernière pour l'instant et puis voilà. Peut-être d'ici quelques semaines, je pourrai me rejoindre à vous.
Bon, voilà. Et puis bonjour Eric.
Bonjour tout le monde.
On se retrouve avec évidemment une invitée aujourd'hui, Claire Perraudeau. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, on va parler de théâtre,
De jeunes publics.
De jeunes publics, voilà. Ça va être un petit peu le thème du jour. On parlera évidemment aussi, on retrouvera des chroniques. Une chronique, Eric, autour de quel thème?
Sur un mot barbare, le crowdfunding. Tout ce qui est anglais est un peu barbare.
Plus en plus.
Caroline, tu nous parleras de quoi?
Je resterai sur l'idée du jeune public.
Voilà. Et donc pour la chronique hashtag, Adeline
Alors une chronique hashtag un peu dédiée à ma petite chouchoute du gouvernement, enfin ex du coup chouchoute du gouvernement, je vous en parlerai tout à l'heure évidemment, d'Axel Le Maire. Et puis un petit peu de réseaux sociaux aussi, des tendances jour,
oui.
De la semaine, même si
du jour vendredi,
voilà,
donc
du jour vendredi
bien parce que
c'est ça qui risque d'être effectivement le plus dur pour mardi. Évidemment, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag L'Oz Actuali. Et on commence donc cette émission avec Claire Perraudeau. On m'a dit dans la préparation de cette émission que vous terminiez une tournée hier, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Voilà.
Termine ou commence en fait, hein. On peut le dire un peu dans les deux sens puisque la création est toute neuve.
Oui, il s'agit donc d'un spectacle pour jeunes et tout public qui s'appelle Souliers de sable, qui est un spectacle de théâtre ombre et marionnettes, qui est basé sur un texte de Suzanne Lebeau, qui est une auteure québécoise qui écrit beaucoup, beaucoup pour les enfants. Et là, ce texte-là est particulièrement pour les petits, à partir de 5 ans. On a fait la création à Vébron vendredi dernier, pour l'école de Vébron. Et puis ensuite, on a joué à Florac mardi, à Langlade mercredi, et hier jeudi à La Nuéjolle.
Alors les deux dernières dans le cadre de Contes et Rencontres, enfin non, celle de mercredi dans le cadre de Contes et Rencontres dont nous avions parlé lors de notre dernière émission. Et puis une prochaine date le 11 mars avec la petite roulotte de la Ligue de l'Enseignement.
C'est ça, en ouverture en fait des deux semaines je crois de la petite roulotte au Blémard avec l'association Route Boycron.
Alors peut-être avant, on redétaillera un petit peu ce projet, bien sûr, mais peut-être on va essayer de faire connaissance un petit peu avec vous. Qui êtes-vous?
Alors, je co-dirige la compagnie L'Hiver Nu avec Baptiste Étard. On est basé au Viala de la Nuéjolle, donc tout près de Mende. La compagnie est là depuis 2009, si je ne me trompe pas. On l'a créée en 2007, mais on est arrivé en Lozère en 2009.
Des Parigots.
C'est ça, exactement. Des Parigots pontinois, du 9-3 même.
Oula.
Et on n'est pas encore reparti. On a récupéré en 2010 une ancienne colonie de vacances derrière le château du Boy, qu'on a retapée en atelier de fabrique théâtrale. On a un grand espace de répétition, on a aussi une autre salle qui nous sert pour accueillir plus de bars, foyers d'accueil. Et depuis la septembre, on ouvre une fois par mois au public pour ce qu'on appelle des banquets d'hiver, de septembre à avril.
Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ces banquets ?
Alors, ça démarre, on y fait beaucoup de choses. On y mange, voilà, on y boit le soir, évidemment, mais avant ça...
Pour le banquet, ça semble relativement logique.
Ça commence en début d'après-midi, on accueille les enfants d'abord, pour des ateliers autour de l'écriture théâtrale contemporaine. C'est souvent mené par moi, mais il y a aussi d'autres comédiens, d'autres personnes de théâtre qui nous y rejoignent. On commence par une lecture de textes de théâtre écrits par des auteurs vivants pour les enfants. Ensuite, il y a un goûter en général. Et puis ensuite, on a un atelier de pratique autour de ce texte avec les enfants. Alors, ça peut être de la pratique du jeu pur. On choisit les scènes qu'ils ont préférées et puis on essaye de voir ce que ça donnerait sur un plateau. Ça peut être aussi un atelier de costume. On a fabriqué des masques de théâtre. Ça peut être... Il y a eu des fois plus du chant. Ça, on essaye en fait de faire tourner un petit peu autour de tous les métiers du théâtre.
Et il y a un monde fou de plus en plus.
De plus en plus. On a commencé l'année dernière, au mois de janvier, je dirais, avec 3, 4 enfants. Et puis on est plutôt à 20. Depuis 3 mois.
C'est exclusivement réservé aux enfants.
Alors, le moment de théâtre est réservé aux enfants. Il arrive que leurs parents restent.
Ils ont plein de choses à faire, les parents.
Et les parents ont plein de choses à faire. Certains restent, écoutent la lecture et restent à l'atelier. Les autres peuvent nous aider à préparer le repas du soir. Il y a un atelier tricot aussi en même temps. Il y a du bricolage. On en profite pour remettre... en état, tout ce qui peut être un peu brinque-ballant encore au Viala. Les derniers temps, c'était les gouttières, par exemple. On fait les panneaux d'affichage. Enfin, on essaye de mettre en route, d'en profiter pour que les locaux soient de plus en plus accueillants. On propose aussi, pour ceux qui le veulent, un atelier partage, un moment de partage de livres, de films, de musique. Les gens peuvent venir avec ce qu'ils ont aimé et puis en parler, le faire écouter, prêter leurs livres... Ça, c'est un peu plus tard dans l'après-midi en général. C'est plus à partir de 5h30.
Et moi, j'y suis allée la dernière fois. Par contre, j'ai fait une partie d'échecs qui a duré un petit moment.
Voilà. Et on propose aussi un atelier jeu ouvert à tous.
Vous pouvez venir avec vos jeux ou il y a des jeux sur place?
Il y a de plus en plus de jeux sur place. On en récupère. Et puis, les gens peuvent venir avec les leurs aussi.
Alors, il faut s'inscrire, il faut être adhérent, il faut... Enfin, comment ça marche? Est-ce qu'il faut s'engager sur...
Il n'y a pas de nécessité d'engagement. C'est plus facile si les gens s'inscrivent parce que nous, ça nous aide à organiser.
C'est pour compter. Voilà. Toujours la même chose.
On fait les courses le vendredi. Donc, plus on sait à l'avance combien il y a de personnes et plus c'est facile. Après, il ne faut pas hésiter à venir même quand on ne s'est pas inscrit.
Et voilà. Et après, comment ça se passe?
Et la soirée après autour du banquet.
La soirée autour du banquet. Voilà. Il y a à 19h, au moment de l'apéro, on propose toujours. Alors, ça peut être de la lecture de poésie, ça peut être des performances, ça peut être. Voilà. Il y a un moment artistique qui dure entre 20 minutes et 40 minutes en fonction. Des fois, c'est jamais un spectacle qui tourne. On ne fait pas de programmation. En général, c'est un travail en cours. Parfois, c'est aussi c'est l'occasion pour nous de chercher des choses dans notre travail artistique ou d'inviter des compagnons de route à faire une recherche aussi. Ça peut être une sortie de résidence. Là, par exemple, il se trouve que le prochain banquet est le 18 mars, qui est le jour anniversaire de la Commune de Paris. Donc, ce sera un banquet qui va tourner autour de la Commune de Paris avec des lectures de textes de Louise Michel, entre autres.
Mais un vrai banquet citoyen.
Un vrai banquet citoyen, oui, on espère. On lance des toasts aussi. Au départ du banquet, on propose
un toaster.
Voilà, il y a un toaster. On espère que de plus en plus les gens puissent porter des toasts à leur initiative et pas uniquement à la nôtre. Donc 19h, le moment culturel. En général, le repas plutôt 20h30 à peu près. Sur le principe, l'atelier pour enfants, on demande une participation de 5 euros qui nous aide à couvrir les frais. Et ensuite, pour le banquet, c'est participation libre. Et pour le repas aussi, il y a une caisse. On demande aux gens de mettre ce qu'ils veulent.
Et alors, on garde ses enfants jusqu'au banquet et jusqu'au temps culturel du soir? Après, il y a un grand placard où on les enferme?
Voilà,
ça se passe
on a un placard, on a beaucoup de ménage à leur faire faire. Non, à partir de 15h30, l'heure de l'accueil des enfants, on peut les garder jusqu'au banquet du soir. Les parents peuvent rester ou repartir, revenir qu'au moment du banquet. Et sur inscription, on peut aussi proposer un babysitting pour les plus petits, pour les parents qui voudraient tranquillement pouvoir partir, profiter surtout du moment culturel où parfois les petits, c'est pas toujours adapté pour eux. Donc, mais par contre, là, faut s'inscrire et on demande pareil une petite participation pour les deux babysitters qui sont là.
C'est une grosse organisation, finalement, chaque mois, de programmer cet événement.
C'est une grosse organisation, mais on a de plus en plus de coups de main.
Donc, oui, ce du que coup, je voulais dire, les choses se font quand même assez naturellement, j'ai l'impression, voilà. Quand on est sur place, tout le monde... quand on voit qu'il y a quelque chose à faire, bon, on essaye d'aider, donc bon, ça se fait naturellement presque.
De plus en plus pour nous, en fait, on fait les courses en amont, et puis après on sait qu'il y aura assez de monde pour aider à la préparation.
Ah, Eric, tu avais emmené tes enfants ?
Oui, nous on les avait amenés, ouais, j'adore ça, donc on y était pour la première fois là au mois de janvier, revenu en février, forcément, a priori, on reviendra au mois de mars. Ça va devenir un peu...
Donc 18 mars pour le prochain et le 22 avril pour le dernier. Hein.
Avec la particularité le 22 avril, pour les enfants, il y aura un spectacle de clown et théâtre gestuel, a priori à 15h30 et qui remplacera le moment d'atelier lecture habituel.
Et ben, en quoi cette proposition finalement de banquet s'intègre dans le projet de la compagnie et enfin comment vous articulez avec les autres, ben, vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation de travaux en cours dans le voilà, mais enfin pourquoi finalement la compagnie qui est implantée ici décide de faire d'avoir cette action là?
On a depuis le début de la compagnie une articulation entre convivialité et proposition artistique. C'est quelque chose qui nous a toujours tenu à cœur. Le premier gros projet qu'on a mené, c'était du théâtre chez l'habitant. C'était un feuilleton qui a duré un an. Ensuite, on a créé un spectacle autour du livre « Oedipe sur la route » d'Henri Beauchaud, qui était un spectacle qui était pour l'extérieur. Et on a cette...
Vous avez fait de la radio participative à Marvejols sur le marché. Enfin, vous êtes dans cette filiation-là.
Il y a une chose comme ça pour nous d'importance d'être toujours avec les spectateurs, en fait, et pas uniquement entre artistes. Et puis, il y a une chose depuis quelques années qui se resserre autour de, pour nous, d'une question que je ne sais pas très bien comment exprimer, mais qui s'articule entre art et politique aussi. Alors, ce n'est pas politique au sens... engagement de parti ou de choses comme ça, mais c'est au sens de... alors très clairement pour nous, c'est comment on fait pour sortir d'un monde marchand. Et comment nous, par notre art, on est dans une chose qui reste. On produit quand même des marchandises, puisque les spectacles, on les vend et on a besoin de les vendre pour vivre. Mais il y a une organisation dans le spectacle qui fait qu'on est quand même un peu en dehors du monde marchand. Et pour nous, c'est... On cherche aussi comment, avec les publics, on pourrait rentrer dans quelque chose qui en sorte un petit peu. Alors ça en sort jamais complètement, puisque tout a un coût, mais par contre c'est aussi pour ça qu'on tient à la participation libre, qu'on tient à une organisation qui n'est pas pensée que par nous, mais qui met à contribution aussi le plus de monde possible.
Oui, Claire, tu m'as enlevé les mots de la bouche, mais vous êtes des théâtreux engagés, alors effectivement, au sens... À mon sens, au sens noble de ce qu'on peut appeler de la politique et de ce qu'on voit peu actuellement dans les médias. Mais voilà, c'est un vrai engagement citoyen. On vous voit aussi sur d'autres fronts qui sont totalement citoyens et enfin, de ce qu'on peut appeler aujourd'hui une espèce de résistance à certaines choses, quoi.
Bien, ben
en tout cas, on vous encourage vivement à tester un banquier.
Alors,
au Viala.
On va tout de suite peut-être annoncer la façon dont, parce qu'après on parlera peut-être plutôt plus du spectacle.
Ouais,
donc
on va peut-être
annoncer tout de suite avant de faire la petite pause pour retrouver la chronique d'Eric. Peut-être annoncer comment on fait pour s'inscrire, pour appeler, où c'est qu'on peut trouver les dates, les infos, etc.
Alors on fait un maximum de communication par mail. Donc le plus facile pour s'inscrire, c'est d'envoyer un mail à la compagnie, donc hiver-nu@orange.fr. On trouve le numéro de téléphone de la compagnie sur le bottin, tout simplement.
Donc, on mettra tout ça sur notre page Facebook, bien évidemment.
Et ensuite, voilà, le mieux, c'est de s'inscrire par mail ou téléphone.
D'accord, ben voilà, c'est fait. Et pour avoir les... Oui, après, une fois qu'on est dans la...
Après, une fois qu'on vient, on laisse son mail et puis nous, on renvoie des mails toujours avant chaque banquet. Et puis, on a commencé à faire un petit prospectus qu'on essaye de poser aux endroits les plus stratégiques possibles.
Ouais, et donc, on rappelle les dates, 18 mars...
18 mars, le prochain banquet, 22 avril. Et juste quand même pour dire avant, la veille du 18 mars, le 17 mars, on co-organise le Café Ciné du Valdo. Et donc, ils viennent faire leur projection au Viala cette fois-ci et non pas à la salle des fêtes de la Nuit Jolie.
Avec quel film, tu sais ?
Le film s'appelle César doit mourir.
Ah oui.
Des frères. Ce sont des Italiens.
Voilà, le rendez-vous est pris pour plein de moments culturels dans les prochaines semaines. Une petite virgule musicale et tout de suite, on retrouve Eric. repart donc dans cette émission. Caroline, avant la chronique d'Eric, un petit quiz.
Ouais, un petit quiz pour Eric, puisqu'on a dit qu'on faisait un fil rouge dans cette émission et d'une émission à l'autre. Donc je voulais savoir si tu savais qui était arrivé au Sable d'Olonne hier soir et ce matin dans le, dans le fameux canal.
Je sais plus son nom, c'est le premier néerlandais qui a réussi.
Voilà, c'est ça. Ah, quand même, tu le sais.
Il a vraiment pas eu de chance. Il fallait qu'il arrive avant 10h30 pour pouvoir rentrer au port hier soir à cause des marées. Et il est arrivé, je crois, à 10h26-27.
C'est ça.
Bloqué. Donc, il a dû quand même passer la nuit en mer.
Et il est rentré. Donc ce matin, c'est le 17e concurrent qui arrive au Sable d'Olonne après 116 jours de course. Et c'est Peter Irema.
C'est ça.
Un néerlandais, donc.
Et il en reste, oui, il en reste un qui a parlé à la radio là, ces derniers jours. Ça va être compliqué parce qu'il
il a plus de nourriture, ou très peu.
Voilà, il a plus beaucoup de.
Et en plus, une partie de sa nourriture a été inondée.
Tout à fait.
Il avait commencé à se à faire
se rationner
et en plus sur ces rations là, une partie a été inondée.
Ça, il va tenter la pêche.
Voilà.
Il est encore loin de l'arrivée.
Une semaine.
Oui, parce qu'en plus, il a une voile de cassé en plus. Donc,
oui, bien sûr, il a des galères pour avoir mis si longtemps.
Bien, alors on parle d'un mot anglais un peu bizarre.
C'est ça, le crowdfunding. Donc on pourrait traduire littéralement par financement par les masses, ou plus facilement par financement participatif. Après, nos amis québécois, ils appellent ça le socio-financement. Alors, pour faire simple, c'est l'apport d'une multitude de personnes, d'un don, d'un prêt, une souscription qui va permettre à une personne ou une entreprise de réaliser un projet. Je vais vous donner quelques exemples assez simples pour vous montrer un peu ce que c'est. Ça peut être le crowdfunding. Par exemple, quand on va dans un mariage, quand on remplit la petite enveloppe pour que les mariés puissent partir en voyage ou payer leur mariage, justement, mais ça, déjà, ça s'appelle un peu du crowdfunding. Moi, j'ai eu une autre expérience. Une fois, en fait, pendant un covoiturage, en fait, la personne qui conduisait, en fait, elle se rendait dans le Lot, dans une ferme dans le Lot, pour aller voir sa chèvre. Non, je plaisante pas, elle allait vraiment voir sa chèvre. En fait, c'est qu'elle allait voir des amis qui avaient décidé de s'installer, mais qui n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir se payer un cheptel entier dès le départ. Et en fait, ils ont demandé à tous leurs amis, à leur famille, tout ça, de leur payer une chèvre. Donc, ils leur ont payé une chèvre et c'est comme ça qu'ils ont créé leur cheptel. Et ça, c'est déjà aussi le début du crowdfunding.
Alors, plus proche de nous, et pour parler de nos amis les Formicables, leur premier festival, le Marvelous Pop à Marvejols, a démarré avec du crowdfunding. C'est ça. La première année.
Mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qu'on ne sait pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a un des monuments les plus connus au monde, donc qui est un peu entaché en ce moment, mais je sais pas, est-ce que vous avez une idée du monument qui peut être le plus connu au monde ? La Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, elle a été financée grâce à un financement participatif à l'époque, ouais, en France. Il y a aussi un des plus grands chantiers qui a existé au monde, qui a été réalisé grâce au crowdfunding, c'est le canal de Suez. Le canal de Suez fait partie des financements participatifs historiques. Donc voilà, donc après c'est quelque chose maintenant qui s'est développé surtout depuis 2007, et le développement de plateformes dédiées. Donc le principe est simple, via une plateforme, un porteur de projet fait un appel à la communauté, afin de récolter de nombreux dons individuels qui lui permettent justement donc de financer son projet. Donc ce mouvement participatif, donc déjà, il s'est développé pour plusieurs raisons. Donc déjà, il y a la crise financière, dans un premier temps, c'est-à-dire que les banques ont commencé à moins prêter. Et il y a aussi une façon, c'est-à-dire qu'un changement du regard des gens sur les banques, justement, c'est-à-dire une méfiance par rapport aux banques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément à quoi va servir notre argent. Grâce au crowdfunding, on peut choisir vers les projets qu'on veut financer, en fait.
Je crois qu'il y a aussi une envie d'engagement de plus en plus importante de chacun d'entre nous à participer à des projets voilà, à notre niveau, à notre manière. Et ce mode de fonctionnement collectif et collaboratif permet d'avoir une petite part, d'être un petit peu impliqué dans un projet dans un projet collectif, en fait, et d'apporter notre pierre à l'édifice.
C'est ça. Tout à l'heure, ça me faisait presque penser, là, quand on parlait des banquets. Chacun peut apporter ce qu'il veut. Il y a des nouvelles plateformes un peu là-dessus. Il y en a une qui s'appelle Tipeee, par exemple. C'est les gens qui font des vidéos ou ce genre de choses, qui les mettent sur Internet, qui ne veulent pas les faire payer. Mais s'il y a des gens qui ont envie que ces personnes-là continuent, en fait, peuvent aller sur cette plateforme Tipeee puis dire, voilà, ben, moi, je donne 1 euro par vidéo que je vais visionner. C'est-à-dire qu'au lieu que ces gens soient financés par de la publicité extérieure, ils sont financés directement par tout le monde, par les vidéos qu'ils font, et ça leur permet de pouvoir continuer. Alors, ils n'arrivent pas à avoir forcément un salaire, mais ils peuvent s'acheter du matériel ou ce genre de choses, et améliorer un peu tout ça. Donc voilà, ça c'est pas mal. Après, il y a des nouveaux sites qui ont permis, qui permettent tout ça. Alors, les plateformes, il y en a plus en plus, c'est-à-dire qu'il y en a plus d'une centaine en France. Ça s'est développé, mais de façon très exponentielle. Alors, les plus connus, ça va être Ulule. Moi, je sais que j'ai déjà participé à Ulule, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un tout petit peu, mais un minimum, propriétaire de la caravane des frères Jacquard. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai l'impression d'être un tout petit peu propriétaire. C'est-à-dire que c'est ça. On a vraiment l'impression de faire partie du projet, quelque part. C'est ça qui est bien. Donc, j'avais eu une autre participation aussi. C'était pour aider à acheter un tracteur.
Les Jardins de Cocagne.
Un
local ici, ont lancé une campagne de crowdfunding au moment d'acheter leur matériel.
Et ce que tu disais par rapport à la chef tout à l'heure, l'intérêt de la chose, c'est qu'on donne de l'argent à un moment donné, mais il y a un suivi derrière, parce qu'on peut voir évoluer les choses. Enfin voilà, les frères Jacquard, tu peux les suivre. Les Jardins de Cocagne, tu peux maintenant t'inscrire pour des paniers. Tu peux voir comment ça fonctionne. Et ça, c'est un aspect sympa quand même. Mm-hmm. C'est pas... tu mets de l'argent dans une tirelire et puis après, basta. Quoi.
Ouais. Cette idée d'engagement dans un projet.
Ouais, du reste, en parlant d'engagement, c'est-à-dire que c'est en 2008, donc je crois bien, c'est ça, c'est la campagne électorale de Barack Obama a été financée grâce au crowdfunding. C'est-à-dire que là, c'était moins par Internet, mais c'est-à-dire que les gens, ils avaient des listings, ils appelaient les gens pour que tout le monde participe, donne 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars.
Alors, c'est le cas d'une candidate cette année en France, qui a été désignée par les citoyens sur Facebook, et qui a lancé sa campagne par une participation de ces mêmes citoyens, une participation financière, c'est Madame Marchandise.
Charlotte Marchandise.
Charlotte, voilà. Qui est en tournée en France.
Au-delà de Facebook, d'ailleurs.
Oui, enfin voilà, sur les réseaux sociaux. Enfin, ouais.
C'était un site particulier.
Oui, il y avait
un site... Après, voilà, je ne sais pas le détail,
Première citoyenne.
Résumer, mais... Oui, voilà.
Est-ce qu'elle en est où de ses signatures? Est-ce qu'on sait?
Bah, elle a du mal, un peu.
Ouais,
hein.
J'ai regardé il y a quelques jours et ce n'était pas encore tout à fait bon.
Bon, il y en aura peut-être qui seront à redistribuer.
Voilà. Il y aura des nouvelles signatures à distribuer. Ouais.
Donc maintenant, on peut voir. Alors, il y a quatre sortes en fait de financement participatif. En gros, c'est vraiment donner quelque chose pour un projet, pour que le projet puisse se réaliser. Et puis, on a quelques contreparties. C'est-à-dire que ça peut être soit un remerciement, soit si c'est un projet, si c'est pour un objet, ça va être de récupérer l'objet une fois qu'il sera enfin réalisé. Là, il y en a eu, par exemple, c'était sur des lunettes en bois. Il y a des lunettes en bois qui ont été créées en Savoie grâce au financement participatif. Après, il y en a une autre, ça va plus être sur du financement, pas du financement justement, du participatif, mais sur les idées, par exemple. Une association qui a besoin d'idées, qui a besoin de talents, qui a certains talents qui n'auraient pas, qui va demander ces talents-là. Il y en a une autre, ça va être un peu comme des prêts bancaires, en fait. On va y avoir une petite rémunération. Alors, ça va souvent pas plus haut que le livret A. Donc, c'est une petite rémunération. Mais c'est les gens qui ont souvent été recalés par les banques et qui passent par ces systèmes-là. Ou sinon, ou carrément, ça va être un peu plus pour prendre des parts dans une entreprise. Donc, ça peut passer par là. Donc, voilà tous les développements qu'il y a en ce moment. Donc là, j'ai quand même noté quelques chiffres, puisque la croissance est énorme. C'est-à-dire qu'en 2016, a priori, c'est 628,8 millions d'euros dans le monde participatif, dont 233,8 millions pour le financement participatif, mais même le crowdfunding dont je parlais dès le départ. C'est une augmentation de 40%. Alors après, on peut voir justement sur les porteurs de projets, sur ces projets-là, les financements par don, c'est vraiment quelque chose pour le plus jeune, en fait. C'est-à-dire c'est les moins de 35, moins de 40 ans surtout qui vont là-dessus, puisque les personnes un peu plus âgées, elle reste un peu sur cette idée de placer leur argent encore un peu à la banque. Ils ne sont pas encore rassurés sur ces nouvelles technologies.
Il y a aussi des plateformes dédiées pour les associations. Maintenant, il y a aussi des spécialisations de plateformes par typologie en fait, de projets ou de campagnes de financement. Il y a des sites dédiés uniquement aux associations, d'autres aux porteurs de projets privés, d'autres du coup à des plutôt volet entreprises. C'est vraiment un champ qui se spécialise aussi.
Puis ça marche vraiment voilà sur la communauté, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder sa communauté. Il y a d'abord les amis, la famille, et puis après ça commence à s'étendre. Et c'est comme ça qu'on arrive à monter un projet en fait. C'est pour ça que c'est pareil, il faut quand même réussir à monter quelque chose qui soit valable. Et puis ça permet de savoir si son projet est valable, justement. C'est-à-dire qu'on confronte directement son projet à la communauté, entre guillemets, et pour savoir si les personnes sont intéressées par le projet qu'on veut monter.
Oui, pour compléter ce que tu dis, c'est souvent aussi les premiers donneurs sont les premiers acheteurs quand il s'agit d'un produit ou même d'un service d'ailleurs. Donc ça permet aussi de tester un modèle économique. Il y a une plateforme ici dont on a entendu parler aussi qui s'appelle JoliClick et qui a utilisé aussi le principe du financement participatif. Et ça permet de tester des modèles et voilà, de se confronter à la réalité de ce qu'on sera quand on sera devenu grand, quoi.
C'est ça. Et donc la semaine dernière, alors je termine juste avec la semaine dernière, donc un des succès du financement participatif qui a été primé donc aux Oscars, c'est le documentaire Merci Patron. Donc je pense que je parlerai
au César donc.
Au César, pardon. J'ai dit aux Oscars.
T'as dit aux Oscars, ouais.
Ouais, mais c'est que j'avais la mauvaise enveloppe.
C'est ça. Mais t'as pas fait de selfie avec Emma Stone?
Non. Et donc je pense que je ferai une prochaine chronique justement sur ce film qui a entraîné beaucoup d'autres choses.
Bien, merci.
Claire, tu as déjà fait du financement participatif, non?
Non, jamais.
Bon. Très bien, on va passer à la première coupure musicale de cette émission et c'est le choix de l'invité. Alors on va demander à Claire de nous dire ce qu'elle a choisi.
Alors j'ai choisi une chanteuse qui s'appelle Ima Sumac. Je ne saurais pas, c'est le premier titre de l'album Mambo. Je ne connais pas le nom du titre, par contre. J'ai choisi ce titre parce que ça représente, c'est une chanteuse que je trouve complètement folle, qui a fait un album Mambo où elle monte dans des aigus incroyables pour redescendre aussitôt dans des basses très grandes. Et ça me fascine en fait pour la liberté de sa voix. Voilà, c'est...
Eh bien, on écoute.
Oh,
Deuxième partie avec notre invité, Claire Perraudeau, on vous retrouve. Et on va parler de ce spectacle donc, qui s'est joué ces quelques derniers jours et qui va se retrouver. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement qu'est-ce qui se passe dans ce spectacle? Donnez-nous envie.
C'est l'histoire de deux jeunes enfants, Élise et Léo, qui ne sont jamais sortis de chez eux. Et par un concours de circonstances que je ne dévoilerai pas là, vont se retrouver pour la première fois à découvrir ce qu'il y a en dehors de leur maison. C'est une histoire très simple, très jolie, sur la notion de peur, d'angoisse et comment on dépasse ses peurs et ses angoisses, la question de la peur de ce qu'on ne connaît pas et donc l'autre et l'étranger par extension, même si ce n'est pas nommé dans le spectacle, mais ce qui me touche beaucoup moins. Dans cette pièce qu'a écrit donc Suzanne Lebeau, pour jouer ces deux personnages. Alors il y a un troisième personnage quand même que je peux nommer, qui sont les souliers de Léo, qui sont les premiers à sortir.
Ils sont dans le titre, hein, de toute façon.
Et qui sont dans le titre. Ouais. Et donc pour jouer ces trois personnages, j'ai décidé d'être toute seule sur scène et de m'accompagner par contre de nombreux objets et marionnettes faites de verre, puisque lié au titre aussi, le sable. Et puis du coup, après, on a essayé de réfléchir à quels objets et quelles matières utiliser. Et donc, on a filé comme ça la matière du sable, donc aussi du verre.
Donc, il y a beaucoup de sable et beaucoup de verre sur scène.
Voilà. Ça s'adresse aux petits à partir de 4-5 ans, mais aussi à leurs parents, parce que je pense que... Il y a plusieurs niveaux de lecture dans la pièce et que ça peut être vraiment pris complètement au premier degré et très tôt, comme je pense vraiment enchanter les plus grands aussi. Le spectacle dure 50 minutes, c'est quand même une petite forme. Il y a une scéno qui donne la façade de la maison d'Élise et Léo, mais qui tient sur un petit espace. C'est dans un rapport de grande proximité avec le public. Et puis... du coup, ça joue entre moments de plus de narration, moments où je prends en charge les personnages, moi en tant que comédienne, et puis moments où ce sont les marionnettes qui vivent et que je fais vivre avec beaucoup, beaucoup d'images, puisqu'il y a aussi beaucoup d'ombres, pour naviguer dans tous les espaces que vont parcourir en fait Élise et Léo dans leurs recherches.
Alors Caroline, tu as vu ce spectacle ?
Oui, j'ai vu ce spectacle mardi matin à Florac. Alors Claire dit un jeune public, c'était même un très jeune public à Florac, parce qu'il y avait des classes uniques. Des Cévennes et ces classes uniques qui sont un peu ciblées en ce moment par l'éducation nationale et qui tendent à disparaître. Et donc il y avait des enfants un peu, il y avait des plus jeunes, il y avait des enfants même de 2 ans. Et alors je peux vous dire que le spectacle a duré 50 minutes, il y a eu 40 minutes de silence quasi absolu. Moi j'étais impressionnée parce que vraiment ils ont été hyper sages. Bon, les 10 dernières minutes c'était un peu plus, ils ont commencé un petit peu à bouger, mais tout juste quoi. Enfin vraiment, ils ont été pris dans cet univers, dans cette histoire et. Moi, j'étais impressionnée par leur attention, vraiment. Quoi. Pour avoir fait de nombreux spectacles jeunes ou très jeunes publics, c'est compliqué. Et là, franchement, ça fonctionne. Et puis, vraiment, c'est mignon. Quoi. On rentre dans ce petit univers. Là. C'est astucieux, le décor est astucieux, plein de petites choses. C'est un peu magique. Quoi. Et je pense que les enfants sont séduits par ça.
Donc, ce spectacle est amené à continuer, évidemment.
Alors, faut dire comment il a été créé, quand même, parce que c'est aussi ça l'intérêt. C'est pour ça qu'il y a toutes ces écoles aussi. C'est que tu as été en résidence dans les écoles de Lozère. Et ça, c'est quand même un chouette parcours.
Ouais. En fait, j'ai eu envie de monter la production comme ça, de faire quasiment toutes les répétitions du spectacle en école. Parce que, d'une part, on avait eu déjà des expériences de résidence, alors plus en collège et en lycée. Qui était plutôt très chouette, très productif pour nous. Moi, ça m'aide à me concentrer, en fait, d'être au milieu des personnes avec qui, pour qui je destine le travail. Et du coup, là, il y a eu 7 écoles qui ont répondu à la proposition, et du coup, au total, 8 semaines de résidence en école. Donc, sur le principe, moi, je proposais un minimum d'une semaine dans chaque école. Ça pouvait aller juste 2 ou 3 semaines. Donc, il y a eu l'école de Vébron qui a choisi qui est 2 semaines. Et du coup, je demandais à avoir une salle à disposition. Donc ça pouvait être soit l'école disposait d'une salle qu'elle pouvait me laisser à disposition parce que j'avais beaucoup de matériel, donc je ne pouvais pas non plus le déménager en permanence. Soit l'école n'en avait pas, mais en général, elles sont à côté des salles des fêtes. Donc dans ce cas-là, on me mettait la salle des fêtes à disposition. Et puis moi, je répétais, je faisais mon travail et je passais 2 heures par jour avec les élèves des écoles d'une part pour leur montrer ce que je faisais, leur parler de mon travail, qu'ils puissent voir un peu l'évolution de la création, et puis d'autre part pour faire avec eux des ateliers de sensibilisation aux techniques d'ombre, essentiellement, puisque c'est très présent dans le spectacle. Voilà. C'est intéressant parce que ça a permis aussi aux enfants de découvrir la pièce, ils la lisaient en amont, on en discutait beaucoup, je leur faisais travailler des passages, donc eux, ça les a vraiment mis dans le bain, et quand ils voient le spectacle après, ils ont aussi tous les souvenirs de ce qu'on a fait ensemble, de ce qu'eux-mêmes ont produit et découvert.
Ouais, et donc maintenant vient la partie de valorisation au-delà de ce premier public un peu conquis, on va dire. Mm-hmm.
Sur chaque territoire, l'école a été partenaire, mais aussi donc une structure de diffusion.
Oui, oui, oui.
Donc il y a la Genette Verte pour la partie Cévenole, il y a donc Rue de Boycrou et la Ligue de l'enseignement pour le Blémard la semaine prochaine. Il y a les scènes croisées pour Chambon-le-Château,
Bagnoles-les-Bains. Voilà. Et puis du coup, Contes et Rencontres aussi pour le 1er mars.
Le Val d'Aunaise.
Donc la mise en scène est collégiale ou...
Non, là, oui, ça a été... Comme c'est moi qui consulte le spectacle et que je joue, il y a un moment donné, il y a quand même besoin de quelqu'un dehors qui regarde. Donc, il y a eu plusieurs personnes. Il y a eu Baptiste Tétard, qui co-dirige la compagnie avec moi, qui fait souvent les mises en scène de la compagnie. Pas toutes, mais qui en fait beaucoup. Et puis Juliette Béliard, qui, elle, est plus marionnettiste, donc qui, elle, m'a aidée à concevoir les marionnettes, les a dessinées, et a fait tout un travail aussi pour m'aider sur la manipulation des marionnettes. Et du coup, l'écriture, la conception de la mise en scène, c'est faite relativement ensemble. Je n'irais pas jusqu'à dire collectivement, ce serait un peu fort, puisqu'ils n'étaient pas sur toutes les répétitions, mais quand même, ils y ont mis une bonne patte.
Et les enfants ont apporté des idées sur...
Je ne dirais pas directement des idées, mais par contre, moi, j'ai testé des choses avec eux. Des choses que j'avais envie de faire, dont je n'étais pas sûre qu'elles fonctionnent, je leur ai fait faire, et pour ça me permettait de voir de dehors si ça pouvait fonctionner ou pas. Donc ça m'a beaucoup aidée.
Bien, c'est finalement assez rare de pouvoir participer comme ça, enfin, en étant scolaire, un processus de création. Enfin, c'est quelque chose qui est rare. Et on rejoint là, la dimension de l'ancrage dans le territoire que vous évoquiez tout à l'heure pour l'accompagner.
Oui, oui, oui. C'est assez... pour moi, c'est dynamique, en fait. Il y a toute cette notion d'échange qui ramène aussi de l'ébullition et qui aide aussi à réfléchir, à avoir des idées.
Et c'est très drôle parce que après le spectacle, il y a un petit temps d'échange avec la salle. Là, c'était des tout-petits, donc forcément des questions parfois un peu naïves, mais pas tant que ça. Finalement, ils avaient bien tout compris, quoi. Il n'y a pas eu de questions. Moi, j'étais un peu dans l'expectative de voir, et ils avaient bien tout compris, hein, globalement.
Ils suivent bien la narration.
Ouais, ouais, ouais. Il n'y a aucun souci. Et les questions, après, sont plus, finalement, anecdotiques, quoi. Enfin, sur le spectacle lui-même, ils accrochent.
Hein. Ils s'attachent à la technique.
Oui, oui,
ils ont envie
sûr.
De savoir comment ça se fait que tel événement arrive, telle image se produit, alors que c'est devant leurs yeux et qu'ils ne comprennent pas comment elle se fait. Mmh. Ça, c'est assez intéressant.
Oui, 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 c'est rigolo, ça.
Bien, alors, on va retrouver ce spectacle, donc on l'a dit, pour le lancement de
La Petite Roulotte, le 11 mars, voilà, à 18h,
pour ceux qui l'ont, pas vu. Et après, il y a déjà des dates qui s'envisagent au niveau... Pas régional, au niveau...
Non, c'est en cours de discussion. Il y a encore quelques scolaires en Lozère, et puis après...
Et la volonté, et la compagnie travaillent aussi en termes de diffusion sur l'ensemble de la région, de la France
Beaucoup dans le Nord, puisque ça reste notre ancien réseau en fait, parisien, avec qui on est encore beaucoup en contact, et toutes nos créations tournent en général dans le 93 à Paris. On a un peu plus de mal à tourner en région. On a un peu de mal à faire venir les programmateurs jusqu'en Lozère, quelle que soit la période de l'année, puisqu'en Lozère, il neige tout le temps, comme on le sait bien. Mais ça va venir. Ça va venir.
Merci le réchauffement climatique.
Voilà.
Et d'autres projets en cours ?
Oui, on lance la prochaine grosse création de la compagnie dans les mois qui viennent. Là, c'est Baptiste qui va être plus dehors. J'étais moi à la mise en scène pour la précédente, Toute la joie possible des Apaches. Ça va être un travail autour de, entre autres, de la question du Moyen-Âge et des sorcières. Mmh. On démarre le travail dans les mois qui viennent et on pense sortir la création pour, en gros, l'automne 2018, à peu près, avec au moins 5 comédiens sur scène. plus gros chantier.
Avec une écriture interne au sein de la compagnie ou...
Certainement une écriture en aller-retour avec le haut plateau, en improvisation comme pour le dernier, mais avec une commande sûrement à un auteur au bout du compte.
D'accord.
Et il y a un atelier adulte ?
Il y a un atelier adulte à Langlade. Oui, tous les lundis soirs, avec le foyer rural de Langlade.
Ah, ça c'est... On a vu tout à l'heure, on a parlé des ateliers enfants, on a parlé de la diffusion de la compagnie, et donc l'atelier adulte, t'as envie de t'y...
Non, c'était pour savoir, c'est que je crois que des fois aussi le...
Oui, on a un groupe d'amateurs qui nous suit depuis un moment, et puis qui se renouvelle aussi, et du coup, en général, il y a un spectacle vers le mois de juin. Là, on n'a pas encore prévu exactement quand.
Avec un projet, là aussi, sur...
Cette année, cette année, on a choisi un texte de Jean-Luc Lagarce qui s'appelle « Dernier remords avant l'oubli ». Voilà, alors ça résonne avec le film, c'est juste la fin du monde, hein, c'est ça, qui a eu quelques nominations. Et voilà, on est au début du travail dessus.
Très bien, mais merci beaucoup en tous les cas d'être venu nous parler de ces projets.
Juste un petit mot peut-être sur la petite roulotte merci quand même, donc, qui démarre le 11 mars au Blémard, qui va prendre la route pour 15 jours en Lozère. Avec
c'est ta chronique.
Non, du tout.
Ah bon ?
Mais non, du tout. Qui va prendre la route pour 15 jours en Lozère, qui va dans les villes, puisqu'elle fera étape à Mende et à Marvejols, mais elle va aussi dans les villages, et surtout dans les villages. Donc, avec une formule cette année qui avait été un peu testée l'an passé et qui est vraiment développée cette année. Un spectacle familial à 18h pour donc les familles dans la ville qui, le lendemain, accueillera toute la journée les scolaires. C'est quasiment 4000 scolaires qui sont concernés par cette aventure. 4000 scolaires du premier degré. C'est unique en France. Enfin, vraiment, nos enfants ont de la chance. C'est pour la Ligue de l'enseignement une façon de donner l'accès à la culture aux plus jeunes et dans les plus petits villages. Et c'est vraiment très réussi. Ça fait 23 ans que cette aventure existe et se perpétue. Donc, vive la petite roulotte.
Oui.
On rappelle les moyens de contacter peut-être l'Hivernu pour si on veut participer au banquet dont on a parlé tout à l'heure. C'est hiver-nu@orange.fr.
C'est ça.
Voilà. Donc on vous remettra ça évidemment sur nos réseaux sociaux et vous pourrez retrouver donc la prochaine date. On a dit le 16, c'est ça?
17 et 18 mars au Viala.
Voilà, le 17 et le 18 mars. Le 17, c'est en partenariat avec le ciné...
Café Ciné du Valdo.
Voilà, je vais y arriver. Et le 18, c'est ça?
Le banquet
voilà,
d'hiver.
Pour le banquet d'hiver. Voilà, les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être venu participer à notre émission.
Merci à vous.
Caroline, une chronique ?
Oui, une petite chronique pour le jeune public, puisque c'était quand même un peu l'idée de cette émission. Quelque chose que j'ai découvert sur Internet. Alors, vu ce qu'a dit Claire en introduction sur l'aspect marchand, c'est le seul petit truc qui me déplaît dans cette idée. Et après, l'idée, je trouve, est excellente. C'est un truc qui s'appelle Epopia, qu'on trouve sur Internet. Donc, et l'idée, c'est une structure donc, qui se propose de créer un livre avec votre enfant par courrier interposé. Donc, vous vous inscrivez. Alors, c'est payant et c'est pas donné. C'est un peu l'aspect qui me gêne parce que je pense qu'on peut faire la même chose pour moins cher, voire gratuitement, avec un bon réseau. En tout cas, l'idée est bonne. C'est votre enfant reçoit un courrier avec un peu d'accessoires et le début d'une histoire. Et votre enfant contribue, en fonction de ses réactions et de ce que lui va écrire, à construire l'histoire finale. Et bien sûr, à la fin, il recevra le livre de sa propre, de son histoire à lui. Quoi. Donc, je trouve que l'idée est excellente. C'est bien évidemment fait pour développer la lecture et l'écriture des jeunes enfants. C'est proposé pour les 5-12 ans. Voilà, l'idée est bonne. La façon après de la commercialiser, bien évidemment, c'est une entreprise. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, hein, il faut que ça vive. Mais bon, voilà, je trouve que l'idée est plutôt sympa. Donc, ça m'avait bien plu. Je voudrais signaler aussi pour le jeune public le petit Libé de ce mois-ci. Hein, Libé fait très régulièrement un petit Libé destiné aux enfants et qui est ce mois-ci sur le thème de l'élection présidentielle, qui est très bien foutu comme chaque fois. avec l'explication de à quoi ça sert et comment ça se passe, et des forces en présence. C'est bien foutu, c'est à télécharger sur Internet, c'est gratuit, donc ne nous privons pas pour expliquer les choses à nos enfants, parce qu'ils en entendent en ce moment forcément, même si on les met pas devant les écrans ou qu'on ne leur fait pas écouter forcément les infos, mais ils entendent les choses, ils entendent passer des trucs, et c'est bien de pouvoir décrypter avec eux et à leur niveau toutes ces choses.
Merci beaucoup, Caro. On remettra les liens aussi peut-être du CIB sur la page Facebook. C'est le moment tant attendu de la chronique hashtag. La dernière par Adeline, au moins pendant quelques temps, elle abandonnera ce poste alors que nous essaierons de...
Je vous fais complètement confiance pour vous mettre aux réseaux sociaux. Enfin, d'ailleurs, oui. Vous y êtes déjà, donc voilà.
Chacun on essaiera de s'y coller.
Vous pourrez vous faire les petites tendances que j'écouterai d'ailleurs, là où je serai, du coup j'ai décidé de dédier cette dernière chronique hashtag, en tout cas pour un petit moment, à du coup quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'ai croisé du coup dans le cadre de mon boulot, mais que je suis aussi par ailleurs par des intérêts autour, vous l'avez remarqué, du numérique et des usages du numérique dans la société et tous ses impacts. Du coup, l'actu en lien avec cette secrétaire d'État m'a aidé à construire aussi cette chronique cette semaine, puisque en début de semaine, lundi, on a vu passer pas mal d'actualités sur sa démission, puisque donc du coup Axelle Lemaire, ancienne secrétaire d'État en charge du numérique et de l'innovation, a quitté ses fonctions au gouvernement. Elle y était rentrée au printemps 2014. Et donc du coup c'était l'occasion de faire un petit récapitulatif de ce qu'elle avait porté comme projet et puis de finir sur cette chronique en lien avec les usages numériques. Donc Axelle Lemaire, pour ceux qui étaient là en novembre 2016, vous l'avez peut-être croisée dans les rues de Mende, enfin peut-être pas tout à fait dans les rues de Mende, mais en tout cas au moins à l'espace événement dans le cadre des Assises nationales de la médiation numérique, puisqu'elle nous a fait l'honneur d'être présente sur le territoire à cette occasion. Et puis, ce n'est pas par hasard, parce que dans l'ensemble de ses missions et de ses actions au sein de son secrétariat d'État, elle a beaucoup porté la question de la médiation numérique et du développement du numérique de façon plus sociale, plus équitable, plus solidaire aussi, et notamment sur la question de l'équilibre des territoires par rapport à ses accès et aux usages qui sont faits du numérique. Aujourd'hui, elle sera remplacée, enfin, elle l'a été dès lundi soir par Christophe Sérugue, qui était en charge de l'industrie aussi au ministère et qui reprendra donc du coup les actions d'Axelle Lemaire. Donc globalement, on l'a beaucoup vu aussi autour des dispositifs French Tech, donc vous savez, tout le développement et l'accompagnement des startups du numérique. Et puis elle a aussi quand même été la première secrétaire d'État à construire une loi de façon concertée et collaborative, puisque du coup elle a déployé la loi pour une République numérique, hein, qui a été promulguée le 7 octobre 2016 et qui a été entièrement construite suite à des propositions sur une plateforme en ligne, justement des propositions de citoyens, et du coup qui pouvaient annoter, modifier et proposer des orientations pour ces textes. Ça a été d'ailleurs à l'époque un vrai bras de fer avec une personne qu'on voit aujourd'hui tous les jours, qui est Emmanuel Macron, puisqu'il était complètement opposé à cette concertation citoyenne pour l'écriture de ce texte, mais elle a réussi à gagner ce bras de fer et a du coup proposé cette loi. Aujourd'hui, c'est toujours...
Et donc, sans surprise, elle s'en va du gouvernement pour aller soutenir Hamon.
Voilà, hein, c'est
pas
ça.
Macron.
Tout à fait. Donc elle démissionne entre autres pour soutenir Benoît Hamon dans sa campagne et puis aussi pour se consacrer à ses actions, puisque du coup elle se présente aux législatives pour la circonscription des Français à l'étranger. C'était déjà les missions qu'elle avait avant d'entrer au gouvernement. Et donc du coup elle explique dans un article que je vous mettrai en ligne aussi et qui est très intéressant, un article de Libération ce début de semaine, qu'elle reprend... Elle souhaite se consacrer à nouveau à ces fonctions-là, notamment dans un contexte un peu trouble avec l'histoire du Brexit. Et puis du coup, puisque dans sa circonscription, il y a le Royaume-Uni, donc elle reprend ces fonctions-là aussi pour porter la voix de la France et aussi sa vision du numérique, notamment à l'étranger, pour les Français à l'étranger. Voilà, aujourd'hui, il reste encore plein de choses de son passage au gouvernement, notamment une de ses plus grandes fiertés, c'est quand même le déploiement de la grande école du numérique. Et aujourd'hui aussi sur le territoire, on aura des restes de ses propositions, puisqu'on a, on a une école de ce réseau-là aujourd'hui sur le territoire. Et puis encore une concertation qu'elle a lancée avec l'Agence du numérique sur, encore une fois, concerter les territoires, les citoyens, les élus et les acteurs sur la question des services et des usages numériques. Voilà. Comment faire en sorte de développer de façon plus équitable tous ces services-là voilà, en proximité. Voilà, sur ce petit, sur cette petite actu, vous avez plein d'infos que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook. Et puis donc, évidemment, les tendances réseaux sociaux de la semaine. Alors même si du coup, on est un peu décalé là sur la date... De l'émission, mais aujourd'hui on avait un hashtag.
Donc aujourd'hui vendredi.
Aujourd'hui vendredi, voilà. Vendredi 3 mars. On avait un hashtag sur Copa ce matin. Donc
oui,
célèbre footballeur décédé ce matin. Et puis dans l'actu politique évidemment.
Alors que Guillaume entame sa tranche de Copa, donc il a eu un moment d'hésitation.
Non, on parle bien de Raymond, le footballeur. Et puis, évidemment, beaucoup de hashtags Fillon cette fin de semaine. Alors, à voir d'ici mardi ce qui sera passé avec le rassemblement de ce dimanche. Mais,
Et un petit jeu toute la semaine des internautes et des Facebookers et des tweetos sur la France est grande. Et voilà, ça a beaucoup tourné et beaucoup joué.
Et puis alors, je pense que là, on est tous autour de la table en capacité de répondre à cette question. Quel est le hashtag tendance de cette semaine quand on est sur le périmètre de la Lozère, par exemple?
Alors, j'ai une petite idée.
Moi, j'en aurais dit.
Voilà, non, dis-moi.
Salon de l'agriculture.
Oui, absolument. Ouais.
Salon de la grille, c'était, d'ailleurs.
Salon de la grille.
Et l'eau de source, qui s'appelle Lorio.
Exactement. Ouais, 100%, 100%, Eric, t'as gagné. Voilà, bah, du coup, deux hashtags cette semaine en Lozère. Voilà pour cette dernière rubrique.
Merci Adeline. À bientôt. On te souhaite plein de bonnes choses. Et puis peut-être qu'on te retrouvera.
Mais peut-être que je m'inviterai de temps en temps.
Va très vite. On vous propose pour la deuxième coupure musicale de faire un petit clin d'œil à nos amis de Festivalier. En écoutant Camille Ardoin qui sera à Langogne le 30 mars en concert.
Je ne te dirai pas les mots doux des promesses, car ils restent dans l'ombre comme de vieux requins et tournent sans répit dans un coin de la tête. Rappelons le passé et ayons toujours faim. La vie m'a abîmé à force de promesses, et je préfère m'enfuir que te dire à demain. Mais pour ce soir, tes yeux me donnent faim de caresses. Reste un peu si tu veux, parce que moi je veux bien. Je me rappellerai ton sourire et tes mains, et je n'aurai pas mal. Et je n'aurai pas peur, et jamais la douceur que tu me donneras ne sera abîmée si demain tu t'en vas. Promets-moi seulement de ne pas revenir, de m'aimer simplement pour un temps éphémère. Nous ne passerons pas nos vies à nous mentir, mais une seule nuit à nous être sincères. Il serait plus prudent de ne rien partager. Mais ta bouche, mais ton corps, mais tes yeux, mais ta peau me crient bien au contraire qu'on ne peut réparer les blessures de la vie que grâce à ces cadeaux. Et pour ceux qui me jugent, ils ont bien de la chance de pouvoir me juger de leur bonheur, c'est qu'ils n'ont jamais eu à sentir le goût rance des promesses trop mûres qu'on vous met dans le cœur. j'ai moi aussi jugé d'autres filles légères. Je crois que simplement, cela me faisait peur. Et je ne savais rien des solitudes amères où l'on fait comme on peut pour un peu de douceur. Tu peux bien regarder mon sourire et mes mains, car tu n'auras pas mal et tu n'auras pas peur. Et jamais la douceur que l'on se donnera ne sera écorchée si demain tu t'en vas. Promets-moi seulement de ne pas revenir, de ne pas vouloir plus que ce présent bonheur. Oui, te dire au revoir m'arrache le sourire, mais parfois les désirs sont moins forts que les peurs. Nous ne trouverons jamais nos baisers ordinaires, nous nous ferons pas mal en nous voulant du bien. N'aurons pas d'aujourd'hui nostalgie que d'hier. N'attendrons surtout pas un peu trop de demain. Je peux me rappeler ton sourire et tes mains. Et non, je n'ai pas mal. Et non, je n'ai pas peur. Et jamais ce qu'on s'est échangé cette nuit ne me sera volé, ne me sera repris, non, jamais la douceur offerte cette nuit ne sera effacée puisque tu es parti.
On se retrouve pour la revue de presse et on commence par Adeline. De quoi vas-tu nous parler ?
Alors du coup, toujours côté actu réseaux sociaux et numérique, j'ai envie de vous parler d'un article que j'ai lu ce début de semaine, le 1er mars, avant-hier, sur une nouveauté Facebook. Alors un petit peu alarmante d'un certain côté, vous me direz ce que vous en pensez, mais... Facebook qui teste un nouveau programme d'intelligence artificielle pour repérer les messages suicidaires qui sont postés sur les réseaux sociaux. Alors, il y a le côté, plutôt bonne nouvelle parce qu'on va peut-être réussir à repérer notamment des profils ou des messages ou des publications un peu alarmantes et accompagner ces personnes-là pour les réorienter prendre contact avec eux. Avant le passage à l'acte, mais du coup, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très alarmant et de très triste, et un petit côté voyeuriste aussi autour de tout ça, puisque c'est aussi en réaction à une forte croissance des vidéos, notamment sur Facebook Live, du coup, qui publient des actes violents, des passages à l'acte de suicide, des accidents, des scènes de torture, et qui malheureusement sont de plus en plus regardées. Donc ça pose aussi la question, je trouve, du voyeurisme sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Enfin, toujours est-il que du coup, le 1er mars, Facebook a annoncé l'ouverture de ce test. Alors pour l'instant, uniquement à l'échelle des États-Unis, bon, c'est déjà...
Il y a déjà du travail.
Sachant que c'était pas... alors c'est pas une totale nouveauté. Hein. Il y avait déjà des choses qui étaient faites, notamment de l'alerte et la possibilité d'alerter quand on voyait passer un message. Mais là, ils ont étendu l'expérimentation et notamment de façon plus dirigée autour des vidéos. Puisque ça intervient après une série quand même de drames, de morts en direct ou de suicides en direct. Notamment un fait divers qui a beaucoup ému l'Amérique il y a quelques mois sur le passage à l'acte d'un suicide d'une petite fille de 12 ans. Donc c'est aussi ce qui a déclenché ces grands groupes et ces responsables de réseaux sociaux à tester des choses et à développer du coup des algorithmes et des façons d'endiguer ce problème. Notamment, du coup, l'idée, c'est là qu'on puisse alerter d'une vidéo ou d'un message considéré comme dangereux et que, du coup, la personne puisse être directement mise en lien avec une association d'aide
où on lui propose, c'est tout le, aussi toute l'ambiguïté de Facebook, on lui propose une mise en relation avec un ami ou un proche au moment de la publication de ce genre de message-là, ou quelques minutes qui suivant la publication du message. C'est... Il y a aussi un petit côté ridicule, je trouve, autour de ça. Mais en tout cas, ça avait le mérite d'être souligné et du coup, à voir si ça peut avoir un effet positif. Mais je trouve que ça ouvre aussi pas mal de questions sur le voyeurisme et l'utilisation de ces outils tels que Periscope. On en avait déjà parlé dans une précédente émission. Facebook Live aussi, et les usages du coup dérivés de ces outils-là.
Voilà. Et c'est vrai que, au final, maintenant, quand on poste un message sur Facebook, alors il ne faut pas que ça soit une fake news, il ne faut pas que ça soit.
Ça commence à devenir compliqué.
C'est...
Alors, à la fois, du coup, on se dit que c'est l'occasion, de, avec toutes ces expérimentations, de faire le tri aussi et de rendre ces outils et ces vecteurs de communication plus, on va dire, plus propres, plus raisonnés, plus pertinents. Et c'est vrai que du coup, ça soulève plein de questions sur leur utilisation aujourd'hui, quoi.
Bien, voilà. Merci Adeline pour cet article qu'on pourra retrouver là aussi sur notre Facebook.
Petite bizarre. Hivernu sur les réseaux sociaux ?
Non, on n'est sur aucun réseau social. Et moi particulièrement, en fait, je dois être très réac. Mais je suis allergique à tout ce qui est écran et tout ce qui est forme de communication qui pour moi sont... Alors, elles existent, tout simplement, mais... qui crée vraiment une ambiguïté entre être seul et communiquer. C'est-à-dire que, en fait, on ne communique plus que par écran, donc tout seul. Ce qui ne m'étonne pas, d'ailleurs, dans le fait, du coup, de mettre en scène aussi, pour du monde, tout ce qui peut être extrêmement violent, extrêmement douloureux, parce qu'on reste seul là-dedans, mais avec l'idée que ça va être partagé à énormément de monde.
On poursuit avec Eric. La revue de presse.
Ah oui, alors ça va pas du tout être dans le même registre. Donc moi j'aime bien les anniversaires, donc on va parler d'un anniversaire. Donc si je vous dis flemmard, maladroit, étourdi, nonchalant.
Gaston la gaffe.
Donc cet anti-héros a fêté mardi 28 février ses 60 ans. Et encore plus de bourdes et de facéties. Donc né sous la plume du dessinateur belge Franquin en 1957, il apparaît pour la première fois pour combler un vide dans un coin de page du journal Spirou. Donc le monde de la BD franco-belge découvre alors ce personnage atypique, ses cheveux bruns en bataille, sa silhouette maigrichonne, son énorme nez et son éternel pullover. Donc après, en 1960, sort le tout premier album des aventures de Gaston. Celui qu'on surnomme le héros sans emploi est pourtant employé par les éditions Dupuis. Mais il n'en fait qu'à sa tête et enchaîne les interventions saugrenues. Il ne travaille pas, il glande. Là, en fait, c'est 60 ans et pourtant il en paraît toujours 18. Il était écolo avant l'heure, débrouillard et terriblement attachant. Il traverse la vie en espadrille et on lui pardonne tout parce qu'il refuse les codes, se jouant sans cesse de ses supérieurs, notamment Fantasio, son rédacteur en chef. Il prend également un malin plaisir à agacer l'agent de police Lontara, ou l'homme d'affaires aimé de Messmaker. Tombe amoureux de Mademoiselle Jeanne et s'amuse avec ses animaux, donc son chat, son poisson rouge, sa mouette et un perroquet qui lui sert aussi de klaxon. Il invente aussi des trucs qui ne servent à rien, comme le porte-manteau à la Picasso, qui lui-même est construit sur la base de la machine à faire les nœuds de cravate, qui elle-même était basée sur la machine à faire les lacets, elle-même basée sur la machine à faire les nœuds des œufs de Pâques et le robot qui marche. Et alors il y a aussi le Maxi Gaston, ça permet de ne pas se mordre les joues en mangeant. Donc ça tire les joues en même temps qu'on mange. Donc, c'est un poète, un créatif perdu, mais un succès qui persiste depuis 60 ans pour 900 planches et 19 albums. Et surtout 30 millions d'exemplaires vendus. Donc, Gaston Lagaffe est plus que jamais ancré dans les problématiques actuelles, donc d'écologie, de libéralisme et d'emploi. Un anti-système qui continue de séduire, même en 2017. Donc il y aura un coffret luxe pour les 60 ans, la bibliothèque Pompidou qui lui a consacré donc, une exposition Gaston au-delà de Lagaffe. Et il y aura même un film l'année prochaine qui va sortir sur les écrans. Donc, m'enfin. Bon, on oublie tous un petit quelque chose de Gaston Lagaffe.
Bien, merci Eric. On poursuit avec Caroline.
Alors moi, c'est une petite revue de presse, un petit article extrait de la Une du Canard de ce 1er mars. Un article intitulé « Un max de menaces » et dans lequel le canard dénonce les pressions et les menaces dont il est l'objet là depuis quelque temps. Alors je vous lis juste le premier paragraphe. Il y a des pays où les hommes politiques appellent au calme, et il y a la France où les Fillon, Le Pen, Soler, Retailleau, Ciotti et leurs amis excitent le bon peuple. 4 semaines que les journalistes, pour avoir pris les 2 héros de la droite et de l'extrême droite les mains dans le pot de confiture, sont devenus d'affreux gauchistes à la solde de l'Élysée, qui menacent rien de moins que la démocratie et la République. Alors il n'y a pas que le canard qui est l'objet de menaces depuis ses révélations sur le Penelope Gate. Il y a aussi Lacroix et Bruno Frappa qui a dénoncé les turpitudes de François Fillon et qui lui aussi a reçu des courriers pas très sympathiques. Voilà, alors je voulais le dire parce que je trouve ça vraiment, enfin voilà, on attaque la justice, tous azimuts, on attaque la presse, enfin on sait quand même que ce sont des pouvoirs ou contre-pouvoirs de notre démocratie et les attaquer ainsi, c'est quand même, à mon avis, grave et très grave. Donc voilà, c'était juste en forme un peu de petit coup de gueule et bien évidemment, longue vie à ce canard.
Moi, après, alors il y a un truc des fois que je comprends pas, par contre, sur le journalisme, qu'on dénonce ça, au contraire, je suis bien pour. Après, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y ait toujours 50 appareils photos, 50 micros autour de ces personnes-là. Pour moi, il faut arrêter de leur donner de la publicité.
Moi, ça m'intrigue un peu aussi, j'avoue.
À ce moment-là, il faut arrêter de leur donner de la publicité. C'est-à-dire qu'ils dénoncent le journalisme, ils dénoncent la justice, et on continue à être 50 à vouloir. Donc c'est ça que j'ai du mal à comprendre.
Oui, et puis ce qui est difficile à comprendre aussi, c'est que certains qui écrivent des livres, qui écrivent des chroniques pour dire tout le mal qu'ils pensent, par exemple de l'affaire Big Malion, etc., continuent aujourd'hui à soutenir de façon très proche et très directe
bien sûr.
François Fillon.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on ne pourra pas accuser Lacroix d'être un journal gauchiste.
Ah non, pour le coup, voilà. D'ailleurs, le canard est très malin en faisant
évidemment.
Un bon bout de son papier sur Lacroix. Parce qu'effectivement, autant le canard, on peut parfois se poser la question, même s'il a dénoncé des affaires autant à droite qu'à gauche. Là-dessus, je pense qu'on peut faire les comptes et qu'il n'y a pas de souci.
Oui, surtout, j'ai fait pareil, oui. Un anniversaire.
Tout à fait. C'est vrai que Lacroix, on aurait pu penser ce journal vraiment dans la mouvance Fillon. Et alors, c'est du coup très drôle, quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça, des journalistes sont morts à Paris, je le rappelle, il n'y a pas si longtemps. Quoi. Mmh. Et on est quasiment tous descendus dans la rue pour défendre la liberté d'expression.
Bien, merci Caro. Voilà, c'est terminé pour cette émission. On vous rappelle les rediffusions le jeudi à 19h, le mardi à 12h30. Et puis tous les moyens de contact sur le net avec Loz Actuali. Vous retrouvez le compte Facebook, le Twitter, etc. Et puis bah, voilà, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.
À bientôt.
Loz Actuali. Votre nouveau rendez-vous sur 48 FM.
Loz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
Loz Actuali, le nouveau magazine de 48 FM.